Après une longue journée au Congrès marquée par plusieurs suspensions de séances, les élus ont finalement adopté le budget 2025 de la Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, arrive à 8 heures sur le territoire pour 4 jours, un nouveau déplacement qui a pour objectif de poursuivre le dialogue sur l'avenir institutionnel. Des modifications de vol entre Nouméa et Singapour qui ne passent pas pour le syndicat des agences de voyage de Nouvelle-Calédonie. Des décisions qui vont entraîner un désagrément pour la clientèle et rendra la ligne moins attractive. À l'international, Emmanuel Macron dénonce des frappes inacceptables au Proche-Orient. 3 personnes sont mortes, 18 sont blessées. Le fragile cessez-le-feu a déjà volé en éclats. Et puis les sports du football en métropole avec la 27e journée de Ligue 1 du triathlon sur le territoire avec le triathlon Jérémy Broutet. Bonjour à tous, bienvenue dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité dans le monde, en métropole et en Nouvelle-Calédonie. Et à la une de l'actualité, l'avenir institutionnel dans ce journal, une journée pour le moins particulière. Boulevard Vauban, les élus du Congrès ont finalement adopté le budget 2025 de la Nouvelle-Calédonie. Michael Juneski.
Oui, une journée particulière car les élus auront passé de très nombreuses heures à l'extérieur de l'hémicycle lors de suspension de séance car réellement débattre autour de ce projet de budget 2025. En début de matinée, les élus ont très rapidement voté les projets de délibération, constatant l'affectation du résultat de l'exercice 2024 par anticipation. C'est au moment d'entamer l'examen de la délibération relative à l'affectation de la taxe générale à la consommation pour l'exercice 2025 que les choses se sont compliquées. Une première suspension de séance aura duré près d'1h30. Les travaux ont repris quelques instants un peu avant 11h30, mais deux autres très longues suspensions ont marqué l'après-midi d'hier au Congrès. C'est finalement aux alentours de 17h30 que les élus ont réellement entamé l'examen du budget primitif 2025 de la Nouvelle-Calédonie. Un budget d'un peu plus de 205 milliards de francs qui inclut une partie des 120 milliards du prêt garanti par l'État. Un budget qui a été adopté avec la voix prépondérante de la présidente Éveil océanien du Congrès. Les 25 élus des groupes Unis et UC, FLNKS et Nationalistes ont voté contre. Les élus Rassemblement Loyaliste et Calédonie Ensemble ont voté pour. Il y a eu 3 abstentions, celle des 2 autres élus de l'Éveil océanien et celle de Yoann Le Courrieux. Écoutez Alcide Ponga, le président du gouvernement.
Ce que je retiens ce soir, c'est que le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté. Et je crois que c'est le plus important à retenir en cette fin de journée. Je veux saluer l'ensemble des élus qui ont permis à ce que le budget de la Nouvelle-Calédonie soit voté. Pour les Calédoniens, c'est à un cheveu près que le budget est passé, mais c'est également à un cheveu près le budget que Thierry Santa a proposé.
On le disait, le budget propre de la Nouvelle-Calédonie a été voté avec la voix prépondérante de Veilma Falaeo, la présidente du Congrès qui n'a pas suivi le vote des 2 autres élus de l'Éveil océanien.
La Nouvelle-Calédonie est dans une situation extrêmement contrainte. Mes collègues se sont abstenus, mais justement c'est dans cet esprit de responsabilité, de lucidité et après les avoir concertés qu'en tant que présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, je devais accompagner ce prêt aujourd'hui parce qu'il en va aussi de la survie de nos collectivités et en fin de compte de la Nouvelle-Calédonie en général. C'est simplement par responsabilité que je l'ai fait.
Dès l'ouverture de la séance publique, hier matin, l'ensemble des élus avaient, dans leurs différentes déclarations, estimé que ce budget 2025 n'était pas parfait, mais que, eu égard à la situation économique que traverse la Calédonie à la suite des émeutes insurrectionnelles débutées en mai 2024, il fallait presque impérativement voter ce budget afin que la Calédonie ne sombre pas dans un véritable chaos économique. À l'issue de la séance, qui s'est terminée un peu avant 20h, Virginie Ruffnac, chef de groupe Rassemblement, saluait l'adoption de ce budget à l'issue d'une journée très compliquée.
Si ce budget n'avait pas été voté, eh bien c'était le chaos pour la Nouvelle-Calédonie. Début avril, les Calédoniens n'avaient plus d'opérateurs électriques Enercal et donc plus d'électricité. Fin avril, il n'y avait plus d'hôpitaux parce que le RUAM était en cessation de paiement. Il n'y avait plus, dès demain, de chômage partiel pour les Calédoniens qui sont dans la difficulté. Là, nous étions dans un cyclone budgétaire. Nous avions besoin de tous les marins sur le pont et ça n'a pas été le cas.
Satisfaction également de Gilles Brial pour le groupe loyaliste après une journée très particulière.
Quand on est convoqué à 8h et que toute la journée, ce sont des suspensions de séance pour voir si on peut céder au chantage des indépendantistes et que finalement on commence à étudier les textes à 17h, je trouve que c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple pour les Calédoniens qui, dans les moments difficiles, journée que nous traversons aujourd'hui attendent que les élus se mobilisent. Et là, ce qui se passe aujourd'hui est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on n'a pas un budget parfait, mais on a un budget qui vient sauver les collectivités calédoniennes, la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes.
Bien évidemment, c'est le fameux prêt garanti par l'État, un prêt de 120 milliards de francs et les conditions de son attribution qui ont fait débat. Le groupe Calédonie Ensemble dénonce depuis de très nombreux mois les conditions d'attribution de ce prêt et c'est un peu à reculons que les élus de ce groupe ont toutefois voté pour ce budget 2025. Écoutez Philippe Dunoyer.
Ça aurait été une catastrophe si ces budgets n'avaient pas été adoptés. Même si, évidemment, beaucoup de des conditions qui figurent dans ces budgets nous ne vont pas. On est adossé à un prêt très très coûteux pour les Calédoniens, donc on n'avait pas le choix. Et il reste encore beaucoup à faire. Donc il fallait absolument qu'on évite un crash. Il va falloir continuer d'avancer et donner un peu de visibilité aux Calédoniens.
Les groupes Rassemblement, Loyalistes, Calédonie Ensemble et la présidente du Congrès ont donc voté pour ce budget 2025. En revanche, les deux groupes indépendantistes au Congrès ont voté contre ce texte. Les explications pour le moins surprenantes de Pierre Chanel Tutugoro pour le groupe UC, FLNKS et Nationaliste.
C'est un vote contre pour simplement confirmer pour nous que le budget reste un budget d'exclusion dans le même élan des politiques publiques qui sont menées au niveau de la province sud. Il y a comme une unité de commandement qui s'installe. C'est une organisation comme tant d'autres, comme on a vécu à certains moments de l'histoire du pays. Donc c'est ça qu'on voulait faire remarquer et que on avait souhaité que nos populations puissent se retrouver un peu plus dans ce budget.
Et si le vote contre ce budget par le groupe UC, FLNKS et Nationaliste n'est pas vraiment une surprise, le vote contre du groupe Uni en est plus une. Écoutez Jean-Pierre Jaywill, le chef du groupe Uni au Congrès.
Le vote du budget est un acte éminemment politique. Le déroulement de cette séance démontre bien la difficulté que nous avons entre nous à nous entendre sur la manière de conduire les affaires de notre pays. Nous connaissons les difficultés que le gouvernement a à élaborer le budget. Mais nous avons voulu dire que le gouvernement doit revoir sa copie quant à la manière de conduire la collégialité au niveau du pays. Nous nous rendons compte qu'il y a de la dérive.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson et Lionel Sabot. Rappelons donc que c'est à l'issue d'une très longue journée que les élus du Congrès ont adopté le budget propre, mais aussi les budgets annexes de réversion et de répartition de la Nouvelle-Calédonie. Les deux budgets annexes qui ont été adoptés sans difficulté.
Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie pour 4 jours. Le ministre d'État, ministre des Outre-mer, arrive ce matin à 8h à Tontouta. Un mois après sa première visite, ce nouveau déplacement a pour objectif de poursuivre le dialogue sur l'avenir institutionnel. Il consacrera en fait l'essentiel de ces 4 jours aux négociations qui se dérouleront une nouvelle fois à huis clos au commissariat Michael.
Mais le premier acte du ministre sur le territoire, ce sera à 10h30 ce matin, la signature du PGE, le prêt garanti par l'État. La signature aura lieu au gouvernement entre le ministre des Outre-mer et le président de l'exécutif Alcide Ponga. Manuel Valls entrera ensuite dès 14h dans le vif du sujet avec le début des négociations avec les groupes politiques. Demain, dimanche, la journée sera entièrement consacrée aux négociations, interrompue seulement par un déjeuner de travail avec les maires de Nouvelle-Calédonie. Le ministre clôturera sa journée par un échange avec la société civile à l'université. Lundi matin, Manuel Valls se rendra au lycée La Pérouse pour un échange avec les professeurs, les personnels et les étudiants avant de reprendre les négociations à 10h30. Le mardi 1er avril, le ministre des Outre-mer débutera sa journée par un échange avec les forces armées de Nouvelle-Calédonie et dès 9h30, il participera à une nouvelle séquence de négociations. Son séjour se terminera mardi par un cocktail républicain avant qu'il ne prenne l'avion à 22h. Une visite très brève de 4 jours au cours de laquelle le ministre des Outre-mer essaiera de faire avancer la recherche d'un accord ou d'un compromis politique autour des 4 thèmes qu'il a identifiés, les liens avec la France et les compétences régaliennes, la citoyenneté et le corps électoral, la gouvernance et le projet de société. On peut rappeler que ces négociations ont été préparées en amont ces dernières semaines avec des ateliers quotidiens qui se sont déroulés en visioconférence entre les groupes politiques et le ministère des Outre-mer.
Emmanuel Valls qui doit donc échanger mardi matin avec les forces armées en Nouvelle-Calédonie, quelques jours après l'annonce du ministère des Armées de la création de cette nouvelles escouades de réserves côtières, dont une qui sera créée à Nouméa, des ERC qui viendront renforcer les moyens mis en œuvre par la Marine nationale dans le cadre de la posture permanente de sauvegarde maritime. Du côté institutionnel, le FLNKS veut bien discuter avec Manuel Valls, mais pas dialoguer. C'est ce qu'il a annoncé hier à la veille de la visite du ministre des Outre-mer en posant ses conditions, Jean-François Bodin.
Dans un communiqué, le FLNKS rappelle en effet qu'il demeure dans la phase préparatoire de discussion, conformément aux décisions prises lors de son 44e congrès et au mandat clair défini collectivement par les groupes de pression. Il affirme également que toute avancée vers des négociations suppose l'établissement d'un cadre méthodologique clair, équilibré et partagé. Un cadre qui devra définir de manière consensuelle et sécurisée le format, le calendrier, la méthode et l'ordre du jour. Pour le FLNKS, ces éléments devront faire l'objet d'échanges approfondis. Et il ajoute que la discussion sur les éléments incontournables portés par le FLNKS doit aboutir avant de s'engager en négociation. On peut rappeler que ces éléments incontournables sont la trajectoire vers la pleine souveraineté, la présence de Christian Théien à la table des négociations, le traitement judiciaire de la situation des prisonniers politiques ou encore la supervision de l'ONU des séquences de discussion et de négociation. Dans ce communiqué, le FLNKS relève aussi que le contexte d'instabilité institutionnelle nationale, autant que la course au calendrier, ne doivent pas entacher par une pression implicite la tenue d'une négociation au forceps qui mettrait en difficulté ses représentants. Il affirme que la réussite d'un accord solide entre les parties trouve sa source dans la confiance réciproque et le respect des principes d'équité qui ont permis aux partenaires d'aboutir à la signature des accords de Matignon et de Nouméa. En conclusion, le FLNKS dit attendre de cette prochaine visite ministérielle la reconnaissance explicite par l'État de l'établissement des conditions indispensables à de véritables négociations. Un communiqué qui semble laisser planer un doute sur la participation du FLNKS aux négociations, mais le secrétaire général de l'UC que nous avons contacté affirme que son groupe sera autour de la table des discussions.
Vos rendez-vous au Radio Rythme Bleu, maintenant toujours en lien avec la visite de Manuel Valls, bien évidemment. C'était Jean-Pierre Jayway, le chef de groupe uni au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui était hier l'invité du magazine Transparence. Il a été interrogé par Elisabeth Noir sur la position de l'UNI dans les négociations sur l'avenir institutionnel. Une interview de Jean-Pierre Jayway à retrouver en audio et en vidéo sur notre site internet. Je rappelle qu'elle sera rediffusée en intégralité demain soir, juste après notre édition de 17h45. Et ce matin, à partir de 11h, nous vous proposons la rediffusion du club politique de Radio Rythme Bleu. Au sommaire, comme je le disais, la visite de Manuel Valls et ce qu'il faut en attendre. Les consultants du club ont aussi évoqué les débats du Congrès sur le budget 2025. Dans un tout autre domaine, ils ont parlé aussi de l'affaire Boualem-Sansal et des relations de la France avec l'Algérie. Un club politique que vous pouvez aussi réécouter en podcast sur le site de Radio Rythme Bleu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que tous les groupes politiques seront autour de la table pour la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel avec Manuel Valls. Ils sont 13% à penser que ce ne sera pas le cas. Merci pour votre participation. Rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. 7h13, on marque une première pause dans ce journal. On se retrouve dans un instant pour parler de l'actualité nationale et internationale.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrez par le showroom Mazda.
8 musiciens du territoire bourrés de talent ont décidé de rendre hommage à l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, Carlos Santana. Un mélange unique de rock, de blues, de rythmo latino, avec des titres comme Black Magic Woman, Oye Como Va ou encore Europa. Bref, une soirée inoubliable vous attend vendredi 4 au On The Beach. Vous pouvez réserver sur ticket.nc, 2600 francs pré-vente ou 3000 francs sur place. Ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Tribute to Carlos Santana, le concert vendredi 4 au On The Beach.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info week-end, Léo Fichou.
L'actualité en métropole, pas une semaine sans de nouvelles violences autour de l'école. Une nouvelle agression s'est produite dans le collège des Ormeaux, situé dans les Hauts-de-Seine, à Fontenay-aux-Roses. Si les cours ont repris mardi dernier, une enseignante de PS a été rouée de coups par trois adolescents. Que s'est-il réellement passé dans ce collège ? Maxime Gondelot pour Europe 1.
tout s'est déroulé mardi. Une enseignante d'EPS doit alors donner un cours sur un terrain de sport situé en dehors de l'établissement scolaire. Elle s'y rend avec sa classe, sauf que trois adolescents âgés entre 13 et 14 ans sont présents sur place. Elle leur demande de partir, mais ils refusent. Elle est alors la cible d'insultes et puis est violemment agressée. Des coups à la gorge lui sont même portés. Une agression devant plus soit de 78 collégiens. Une scène qui a choqué certains d'entre eux.
C'est choquant parce que du coup, normalement c'est là où on vient étudier, etc. Mais là, après il y a de la violence, les profs aussi se font agresser.
Au sein du collège, déjà il n'y a pas vraiment de dispute, ou en tout cas c'est arrêté très rapidement. Mais alors en dehors du collège, je pense que c'est vraiment, cette année c'est une première de longue date.
L'identité des trois adolescents n'a pas été dévoilée, cependant deux étaient exclus de l'établissement scolaire. Le troisième, lui, est déjà connu des services de police. Une attaque inacceptable qui soulève la question de la responsabilité parentale, selon Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine.
On ne s'en prend pas à un professeur, quel que soit son âge et quel que soit le motif. S'en prendre à un professeur, c'est s'en prendre à la République. Je veux poser une question, c'est la question de la responsabilité parentale. Parce que quand on a 13 ans, quand on a 14 ans, qu'on part à la dérive, les premiers qui doivent vous rattraper, ce sont vos parents.
Aujourd'hui, l'enseignante va bien physiquement, mais reste marquée émotionnellement. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre pour faire la lumière sur cette agression.
Et notez que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a d'ailleurs pris la parole sur ce sujet. Pour lui, l'école doit être un sanctuaire, c'est le cœur battant de la République. L'école n'est pas un lieu où il doit y avoir des rixes. Fin de citation. À l'international maintenant, Emmanuel Macron dénonce des frappes inacceptables au Proche-Orient. L'armée israélienne a bombardé la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, après avoir reçu des tirs de roquettes vers son territoire. 3 personnes sont mortes, 18 sont blessées. Le fragile cessez-le-feu vient donc de voler en éclats. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv.
Oui, alors on peut en effet affirmer que c'est le cas, mais les Israéliens comptent sur la faiblesse du Hezbollah pour éviter le scénario d'une escalade. Ses capacités militaires y ont été considérablement amoindri au cours des mois de la guerre qui l'opposait à Tsahal. L'autre élément nouveau, c'est la relative stabilisation politique au Liban. Le gouvernement en place à Beyrouth sait d'ailleurs qu'il doit se désolidariser de la milice chiite s'il veut consolider son pouvoir. C'est donc aux dirigeants libanais, au moins autant qu'au Hezbollah lui-même, qui est adressé le message constitué par ces frappes aériennes sur Beyrouth, les premières depuis novembre dernier. Leur cible, un bâtiment servant d'entrepôt de drones à la milice chiite dans son bastion du sud de la capitale libanaise. L'armée israélienne avait averti les habitants du secteur concerné, leur recommandant de le quitter au plus vite. Auparavant, d'autres objectifs liés au Hezbollah, mais cette fois dans le sud du Liban, avaient été pris pour cible. Ces frappes et celles de Beyrouth constituent une riposte aux tirs de roquettes effectués ce matin depuis le Liban vers le territoire israélien. L'un des deux projectiles s'est abattu en territoire libanais, l'autre a été intercepté par la défense antiaérienne.
Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Et puis toujours dans l'actualité internationale, plus de 150 morts et plus de 700 blessés. Le bilan est loin d'être définitif après le séisme de magnitude 7,7 survenu ces dernières heures en Asie du Sud-Est. L'épicentre se trouve dans le centre de la Birmanie, mais la secousse a été ressentie en Thaïlande, en Chine ou encore au Cambodge. La junte birmane appelle la communauté internationale à l'aide. 7h18, on marque une deuxième pause dans ce journal avant de revenir sur le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Jusqu'au vendredi 4 avril, Tradition Thaïlande vous invite à jouer pour tenter de gagner une carte VIP pour vous offrir des heures de bien-être et de détente. Un cadeau exceptionnel d'une valeur de 150 000 francs. Pour participer, c'est simple. Envoyez chance au 4020 dès maintenant. Plongez dans l'authenticité thaïlandaise au Faubourg Blanchot avec une sélection de 16 massages allant de 20 minutes à 2h30. Un moment unique de détente vous attend chez Tradition Thaïlande. Réservation en ligne, bon cadeau. Tradition Thaïlande vous accueille au 11 route du Port des Pointes et sur Facebook. Téléphone 43 04 20. Alors pour tenter de gagner des heures de bien-être, envoyez chance au 4020. Tirage au sort le vendredi 4 avril à 14h. 371 francs par SMS sur Radio Rythme Bleu. Il n'y a pas de jour sans jeu.
Passionné d'équitation ou simple curieux, rendez-vous le week-end du 29 et 30 mars dans les centres équestres de Nouvelle-Calédonie pour Tous à Poney. Au programme, animation, découverte et sensations pour petits et grands. Trouvez le centre équestre le plus proche et le programme des activités sur www.grand.nc ou sur les réseaux sociaux. Venez vivre la magie du poney.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et l'actualité sur le territoire, Léo Fichou.
Avis aux utilisateurs du réseau aérien Air Calin a ajusté son programme de vol Nouméa-Singapour pour la période d'avril à octobre. Pendant ces 7 mois, tous les vols du jeudi à destination de Singapour sont annulés. Les vols du vendredi sont quant à eux avancés de 10 heures afin de faciliter les connexions avec d'autres compagnies. Certains vols seront également annulés les dimanches. Des ajustements minimes mais nécessaires pour s'adapter à la réalité du marché, explique Arnaud Gervais, directeur commercial d'Air Calin.
Sur la période, il n'y a pas plus de 7% des vols qui font l'objet d'une annulation pour tenir compte de la demande qui n'est pas très forte sur cette route en ce moment. Ça ne remet pas du tout en question la desserte d'Air Calin sur Singapour que l'on souhaite conserver en même temps qu'on a un produit calédonien de bout en bout jusqu'à Paris via Bangkok. Air Calin souhaite aussi conserver sa desserte de Singapour pour rencontrer là-bas un certain nombre de partenaires et offrir du choix à la clientèle et on saura s'adapter à la hausse quand les conditions sont plus favorables de manière très rapide.
Et les passagers concernés par ces modifications ont déjà été contactés par la compagnie aérienne. Dans un communiqué envoyé hier à la mi-journée, le syndicat des agences de voyage de Nouvelle-Calédonie déclare s'étonner de ne pas avoir été informé en amont par Air Calin de ces changements. Le syndicat, par la voix de sa présidente Vaya Frogier, explique que ces reprogrammations de vols vont entraîner un désagrément pour la clientèle et rendra donc la ligne moins attractive.
Il nous semblait important de faire savoir la vision qu'ont les agences de voyage parce que nous traitons aussi des clients qui subissent les désagréments de ces changements. Nous avons réclamé à Air Calin d'abord des solutions commerciales pour essayer de satisfaire au mieux les clients et nous avons surtout réclamé des solutions techniques que nous n'avons pas à ce jour. Si vous êtes un passager qui a été impacté par une modification de vol, que sur ce vol vous aviez acheté un siège ou un bagage supplémentaire, eh bien aujourd'hui nous n'avons pas la solution de cette technique pour transférer votre achat sur le nouveau vol qui vous a été affecté.
Le syndicat des agences de voyage de Nouvelle-Calédonie constate que la modification du vol du vendredi rallonge le temps de connexion des clients à Singapour, passant de 2-3 heures à environ 12 heures. Le gouvernement apporte des précisions concernant le directeur de la sécurité civile, Frédéric Marquilecia. En début de semaine, on apprenait qu'il avait été suspendu de ses fonctions pour 4 mois par le président du gouvernement, Michael Juneski.
À l'origine, un signalement fait auprès du procureur de la République par des agents de la sécurité civile qui reprochent au patron des pompiers des malversations financières et divers arrangements au sein du service. Le gouvernement tient à apporter des précisions pour éviter toute interprétation erronée des faits, écrit-il dans un communiqué. Il indique que Frédéric Marquilecia fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui n'est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure provisoire en attendant l'issue des procédures administratives et pénales menées parallèlement. D'autre part, l'audit interne diligenté au sein de la sécurité civile est totalement indépendant de la mesure de suspension puisqu'il avait été lancé bien avant la décision de suspension. Enfin, le gouvernement déplore la divulgation d'informations relatives à une affaire interne à la collectivité. Cette fuite prématurée nuit non seulement à la présomption d'innocence, mais aussi à la bonne conduite des procédures en cours, ajoute le gouvernement dans ce communiqué publié hier après-midi.
Au chapitre des faits divers, un corps sans vie a été retrouvé hier matin près du littoral de Boulou-Paris, un peu avant 9h. Il s'agit d'un homme de 59 ans, médecin retraité. Dans un communiqué, le procureur de la République indique que sa disparition a été signalée hier par la compagne de la victime, dont la voiture a été retrouvée à Port-Wingui par les gendarmes. Peu de temps après, ils ont retrouvé le corps de la victime en mer dans la même zone. Le parquet a ordonné des investigations médico-légales par un légiste, mais sous réserve des actes en cours, indique Yves Dupas. L'hypothèse privilégiée est celle d'un décès accidentel par noyade.
RRB 7h23.
Le colloque de la FEDE a refermé ses portes hier à la CCI après 2 jours de travaux. Les représentants de la société civile et les experts qui y ont participé ont élaboré un plan de refondation sociale et solidaire, le PR2S. Il a permis de dégager des propositions sur différents secteurs, logement, réforme fiscale, pouvoir d'achat, transport ou encore enseignement. Une fois qu'elles seront formalisées, la FEDE présentera ses mesures aux institutions calédoniennes, mais aussi au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie alerte sur une recrudescence des cas de leptospirose. Au 27 mars, 57 cas ont été confirmés qui ont nécessité 52 hospitalisations. 41 d'entre elles ont nécessité un placement en service de réanimation et en soins de surveillance continue. Cette situation est bien supérieure aux moyennes annuelles habituelles qui tournent autour de 21 cas. La majorité des patients sont des hommes vivant en zone rurale exposés au milieu humide ou boueux, chasseurs, pêcheurs ou encore agriculteurs.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
L'actualité culturelle sur le territoire, une nouvelle exposition est présentée à l'Amirauté par l'artiste El Loco, Kélinda Boicou.
Jean-Michel Dufaux, alias El Loco, présente ses œuvres, véritable bijou calédonien sur tôle ondulée. C'est jusqu'au 5 avril de 11h à 18h. Le vernissage aura lieu à partir de 9h tout à l'heure à l'Amirauté, donc située au 15 avenue des Frères Carcopino.
Du côté de Nouville, pardon, la province Nord sera à l'honneur à la Maison des Artisans.
Une vingtaine de prestataires touristiques de la province Nord prendra ses quartiers de 8h à 18h. Il s'agit de la 7e édition du Salon Échappée Nord. Une nouvelle édition encore plus riche en découvertes et en saveurs. Hébergement, activités, loisirs, bons plans, tous les prestataires touristiques du Nord font les déplacements pour vous faire voyager sans quitter Nouméa. Les précisions de Judicael Sélefen, le directeur du GIE Tourisme Province Nord.
Une vingtaine de prestataires touristiques, accompagnés aussi d'une vingtaine d'artisans, de sculpteurs, de personnes qui font des produits cosmétiques, des couturières aussi qui seront là avec nous. Et donc pour la partie touristique, ils seront là pour parler de leur structure déjà et dans un deuxième temps proposer des offres promotionnelles pour attirer, en tout cas pour permettre aux gens, aux touristes de venir dans le Nord. Et on aura aussi donc pour les artisans des ateliers vivants, on aura des défilés de couture, on aura des initiations à la sculpture, un certain nombre d'activités qui vont meubler et jalonner. La journée sera rythmée par les jeux que la destination offrira, donc il faut y participer. Donc on offrira des week-ends pour deux personnes pour découvrir la destination dans les grandes structures de la destination.
Le septième salon Échappée Nord, c'est de 8h à 18h à la Maison des Artisans, route de Nouville.
De son côté, la CAPA organise à partir de 10h son premier loto de l'année.
L'occasion de gagner des paniers de la ménagère, de la vaisselle, des petits appareils électroménagers. L'occasion pour vous d'aider l'Association calédonienne des personnes âgées située au Faubourg Blanchot. Une trentaine de parties seront proposées aux amateurs de loto, souligne Liliane Condoumi, la présidente de la CAPA.
Sur ces 30 parties-là, il y en a 24 qui vont être à 100 francs. On a fait des lots quand même pour pas que les gens payent trop cher. Donc toutes les quines, ça sera un panier de la ménagère. À la demande des participants, parce que maintenant, ce qui les intéresse, c'est surtout le panier de la ménagère. Et on a quand même une partie à 1000 francs, parce qu'on a un air flyer et on a un micro-ondes. Donc on va faire une partie à 1000 francs. Et derrière, il y aura une partie gratuite. Je pense que ça va être intéressant. Et on a besoin de beaucoup de monde, parce que l'argent qu'on va récupérer, on va le mettre de côté parce que cette année, la CAPA fête ses 50 ans. Venez nombreux, il y a de la place et vous serez bien reçus dans une ambiance conviviale.
Le loto de la CAPA, c'est à partir de 10h dans ses locaux au Faubourg Blanchot.
Et pour terminer, Kélinda, la Big Up Jam à Dimbéa, le festival de rock au féminin au Mont d'Or.
La ville de Dimbéa accueillera à partir de 14h le Big Up Jam Lader au Big Up Spot du Parc du Couture, organisé par la Global Team. Les riders vont faire le show. Et de la musique sera également proposé au Mont d'Or avec le Woman of Rock 2 qui animera ce soir la salle de spectacle du Centre culturel à Boulari. C'est un festival 100% rock au féminin avec 4 groupes calédoniens à l'affiche. Ce sera à partir de 18h.
Et notez que ce samedi, le marché municipal du Mont d'Or accueillera une édition spéciale Marché Broussard. Un rendez-vous qui préfigure une modification des horaires du marché municipal à partir du 4 avril prochain. Il sera désormais ouvert chaque vendredi et samedi de 7h à 17h et chaque dimanche de 6h à midi. Il sera désormais fermé les mercredis et les jeudis. Troisième et dernière pause dans ce journal, on fera le point juste après sur le programme sportif du week-end.
RRB, la pub. Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Le marché Broussard revient au marché de Boulary. On remet ça le dimanche 30 mars de 6h à midi. Venez déguster et apprécier les produits du terroir. Boucherie, charcuterie, fruits et légumes, produits de la mer, animation musicale, stand-up, manège et animation pour les petits et les grands. Infoline 96 07 09.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal et celle du sport, Léo Fichou.
Oui, on ouvre cet agenda des sports en métropole avec du football, la 27e journée de Ligue 1. Strasbourg et Lyon ouvrent le bal, Michael.
Le RC Strasbourg qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Les Strasbourgeois sont actuellement 7e du classement alors que Lyon est à la 5e place du championnat de France, à seulement 2 points du podium. On joue depuis 33 minutes maintenant et le score est toujours de 0-0 entre ces deux formations lancées dans la course à l'Europe.
Le championnat de France de rugby également à suivre dès ce soir le début de la 20e journée de top 14.
Ça commencera par le déplacement de la section paloise sur le terrain de Toulouse. Les Toulousains leaders du classement alors que Pau est 7e aux portes du top 6. Match à suivre dès minuit 30. Ensuite, à 2h30 en simultané, Clermont-La Rochelle, Bayonne-Lyon, Montpellier, Stade Français et Vannes-Perpignan. À 7h05, Castres recevra Toulon. Lundi, le Racing 92 accueillera l'Union Bordeaux-Bègles.
Rugby toujours avec le deuxième match du tournoi destination féminin. Le 15 de France, dames, affrontera l'Écosse.
Une semaine après leur victoire sur le terrain des Irlandaises, 27-15, cette fois, les Bleus recevront les Écossaises. Rencontre à suivre à partir de minuit ce soir pour nous. Les Françaises qui sont pour le moment à égalité de points avec les Anglaises en tête du classement. Avantage au goal average aux tenantes du titre anglaises qui avaient dominé les Italiennes lors de la première journée 38-5.
On passe au sport mécanique, Mickaël. En MotoGP, place ce week-end au Grand Prix des Amériques.
Oui, la première séance des célèbres sous la pluie du Texas a déjà vu l'Italien Franco Morbidelli réaliser le meilleur chrono. Marc Marquez, l'Espagnol, vainqueur des deux premiers Grand Prix et leader du classement, a chuté sans gravité, bien sûr. Il termine d'ailleurs tout de même avec le troisième temps de référence, tandis que le Français Juan Zarco a terminé à la quatrième place au guidon de sa Honda. Fabio Quartararo, l'autre tricolore, arrive quant à lui à la quatorzième place. Sprint Race à suivre demain dès 7h pour nous sur le circuit d'Austin. Le Grand Prix des Amériques, ce sera à suivre lundi matin à partir de 6h, heure de Nouméa.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Le sport côté calédonien du football avec la O-League qui démarre demain au Niara.
La Ligue des champions d'Océanie aux îles Salomon. Cette année, c'est Tigasport qui représente la Calédonie. Les joueurs du club basé à Nouméa affronteront Rewa, club des Fidji, ce dimanche avant de défier les Néo-Zélandais d'Auckland City et la Espirae de Tahiti.
Toujours dans la région, on parle de karting. Deux jeunes pilotes calédoniens sont en Australie pour disputer la première manche du championnat.
Raphaël Gilles, 11 ans. Lucas Padovez-Robo, 14 ans. À Melbourne, sur le mythique circuit de Todd Road, la finale aura lieu ce dimanche après deux jours d'essais de qualification. Ce sont les premiers pilotes français, calédoniens et étrangers donc à participer au championnat australien de karting.
Et puis on passe en revue le programme du week-end sur le territoire.
Allez, un nouvel événement du Cercle Nautique Calédonien, la première édition de 100% skippeuse ce week-end, des équipages mixtes avec trois femmes et deux hommes à chaque fois, des régates tout au long du week-end. Le triathlon Jérémy Broutet, c'est ce samedi à Bouraquet. Rendez-vous dès 9h pour toutes les catégories, des Benjamins au Masters en équipe ou en individuel. Deux triathlons sont proposés, un XS et un minime, un XS pour les Benjamins et les minimes et un S pour les cadets et les Masters. Il y a du surf à Bouraille avec la compétition de lancement de la saison en shortboard, longboard, stand-up paddle surf et bodyboard ce dimanche. Et puis il y a encore des tournois et compétitions du futsal, le tournoi Timash MH10 féminin et masculin organisé par la SPTT Futsal. Ça se passera au hall de Magenta Tour. La coupe d'ouverture de volley du comité provincial sud ce samedi à Païta. La coupe d'ouverture de tennis de table également du comité provincial sud. Compétition jeune de tir à l'arc au Mont d'Or. Et la finale du challenge Benjamin de basket. Ça se passe à Nouméa. Les meilleurs gagneront leur place pour le challenge national qui se disputera en métropole. Ça se passera donc aujourd'hui à la salle Omnisport de Lanzvata.
Merci beaucoup Mickaël pour toutes ces précisions sportives sur le programme du week-end. On passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Allons-y. Alors, ce matin, le soleil sera bien présent, parfois contrarié par un voile de nuages élevés sur l'ouest et par quelques nuages bas ailleurs. Porteur de rares averses sur la façade est, l'alizée d'est-sud-est sera couvert, compris entre 15 et 20 nœuds. Il se renforcera en cours de matinée et soufflera localement à plus de 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds sur le sud-ouest et la pointe nord. Cet après-midi, le ciel deviendra nuageux. Quelques averses seront attendues sur l'extrême nord-ouest et très localement sur l'est et l'ouest. L'alizée d'est-sud-est se maintiendra généralement entre 15 et 20 nœuds et localement entre 20 et 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds sur le sud-ouest. Sur le nord-ouest, il se maintiendra proche de 10 nœuds. Les températures de l'après-midi baisseront légèrement. Elles évolueront entre 27 et 30 degrés, Léo.
Merci beaucoup, Nicolas.